RCF.
La maladie a-t-elle un sens? C'est le titre du dernier livre de Thierry Janssen, paru chez Fayard. Thierry Janssen a exercé le métier de chirurgien pendant plusieurs années, mais déçu par une médecine exclusivement mécaniste, il décide de s'orienter vers la psychothérapie. Aujourd'hui, il reste médecin et s'intéresse aux origines de nos maladies. Thierry Janssen ne rejette pas la médecine conventionnelle, dont il reconnaît les avancées, mais il promeut une pratique médicale intégrant toutes les dimensions de l'homme, le corps bien sûr, mais aussi le psychisme et son environnement social. Thierry Janssen, nous nous retrouvons, bonjour.
Bonjour.
La semaine dernière, vous nous avez parlé des avantages d'une médecine dite intégrative. Alors, un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas avec nous.
Une médecine intégrative, c'est une médecine qui regarde le monde en essayant d'y inclure tout ce que le monde comporte, et en particulier face à la maladie, d'y inclure tout ce qu'il y a comme ressources face à la maladie. C'est-à-dire d'aller voir dans différentes cultures thérapeutiques qu'est-ce qui pourrait être mis au service du malade. Et ce n'est pas une médecine exclusive qui défend une chapelle contre une autre et qui s'isolerait dans une seule vision du monde et de l'être humain.
On a parfois l'impression de cela justement. Alors peut-être plus en France, qu'il y ait une espèce de guerre de clans, guerre de chapelles dans la médecine. Les homéopathes sont souvent décriés, les ostéopathes aussi. Et puis alors, on tape aussi sur la médecine conventionnelle. On dit que
Molière avait déjà tellement bien montré ça. Quand il y avait plusieurs médecins au chevet d'un malade dans les pièces de Molière, c'était la dispute entre ces médecins et le malade risquait sa vie entre les saignées et les émétiques, etc. Je pense que dans l'activité médicale, dans l'activité du soignant en général, il y a une part non consciente d'un désir de toute puissance. Et lorsque je pratiquais la chirurgie à l'université de Bruxelles, je demandais toujours aux étudiants pourquoi ils avaient choisi ce métier. Et ils me disaient parce que c'est un beau métier, ça rendait service, mon père était médecin, ma mère infirmière, peu importe, il y avait toujours de bonnes justifications. Mais quand on grattait un petit peu, on découvrait que tous ces soignants, ces futurs soignants, avaient très peur de la maladie et très peur de la mort. Je crois que nous avons tous peur de la maladie, tous peur de la mort. Mais peut-être les soignants plus que d'autres, et ils trouvent là une énergie pour faire ces longues études, ce métier qui n'est pas facile, et du coup, parfois, ils ne se rendent pas compte qu'ils se réfugient derrière des technologies, derrière des recettes, des remèdes, pour exercer une toute puissance sur la maladie, espérant faire reculer les limites de la mort. Et cette toute puissance développe des égos qui sont dans le pouvoir. Et il n'est peut-être pas étonnant alors que quand tous ces égos sont ensemble, eh bien, ce sont des luttes de pouvoir. Et la médecine est souvent dans des luttes de pouvoir, qu'elles soient d'ailleurs conventionnelles, je veux dire la médecine scientifique, ou non conventionnelles, toutes ces thérapies alternatives et complémentaires. Il y a des luttes de chapelle incroyables, et c'est très dur de créer cet esprit intégratif pour créer une grande médecine avec un grand M.
Vous, Thierry Janssen, vous recevez des personnes malades qui ont de graves maladies, cancers, graves pathologies.
Oui, vous savez, ayant pratiqué la chirurgie, et puis la psychothérapie, je me suis finalement dit qu'il était plus légitime de pratiquer l'approche psychothérapeutique avec des personnes qui souffraient physiquement, puisque ça je le connaissais aussi. Et il n'y a pas beaucoup de psychothérapeutes qui avaient cette connaissance intime et interne du corps, parce que chirurgien, on rentre dans le corps. Et donc aujourd'hui, je reçois essentiellement à la consultation des personnes qui sont en souffrance physique, mais pour les accompagner d'un point de vue psychologique. Et ce, à deux titres. D'une part, les aider dans les qu'est la maladie, dans cette crise qu'est la maladie, pour non seulement la traverser avec plus d'aisance, moins de souffrance, mais aussi lui trouver un sens, pas un sens préétabli, pas un sens que l'on décide à l'avance qu'il y aurait une loi particulière, mais le sens que chacun peut avoir envie de réattribuer d'attribuer à son expérience pour que cette expérience s'inscrive dans son parcours de vie et qu'elle soit une opportunité peut-être de mieux se connaître, de mieux connaître, de mieux comprendre ce qu'est la vie et de donner peut-être une nouvelle impulsion, une autre direction, une nouvelle direction à sa vie. Mais l'autre propos d'une consultation comme celle-là, c'est ce faisant, en réattribuant du sens, en se libérant de certains poids, de certaines difficultés émotionnelles, psychologiques, en ayant un meilleur contact aussi avec soi-même, une meilleure connaissance de soi, ça permet de générer des émotions plus positives. Et ces émotions positives, on le sait aujourd'hui grâce à la psycho-neuro endocrino-immunologie, un nom un peu barbare mais qui décrit simplement les liens entre le psychisme, le fonctionnement du système nerveux et celui de la production des hormones et des défenses immunitaires, qui montre vraiment le lien entre le psychisme et le corps, on sait que ces émotions plus positives sont bénéfiques pour le processus de guérison. Et donc en parallèle, en complément de tout ce qui est fait à l'hôpital, de ces soins notamment chez les personnes qui ont le cancer, de chirurgie, de radiothérapie,
de chimiothérapie,
eh bien j'essaie d'apporter ce potentiel, de stimuler ce potentiel-là, et le tout dans une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire faisant appel à différents intervenants. Donc il m'arrive régulièrement de proposer à ces patients, en plus des médecins conventionnels, de consulter éventuellement un ostéopathe, un acupuncteur, par exemple pour réduire les effets secondaires des chimiothérapies. L'acupuncteur peut apporter beaucoup, notamment sur les nausées. Et différents intervenants de médecine dite alternative et complémentaire. Le tout dans un esprit intégratif et jamais exclusif.
Donc, vous proposez de trouver un sens, parce que c'est quand même le thème de votre livre. Comment donner un sens à quelque chose qui nous tombe dessus comme un cancer? Enfin, je veux dire, oui. On est abasourdi.
Vous savez, c'est pas un jeu de mots ce que je vais vous dire. C'est une réalité concrète. Je pense qu'on peut aider vraiment les gens à retrouver ou à réattribuer du sens à ce qu'ils vivent en leur proposant de faire le parcours du bon sens. Et ce que j'appelle le parcours du bon sens, c'est de respecter la manière dont nous appréhendons la réalité avec notre cerveau. Nous l'appréhendons d'abord physiquement, à travers nos cinq sens. Et puis toutes ces informations physiques sont transformées en émotions dans notre cerveau, et ensuite en représentations qui deviennent des mots, un discours, des croyances, tout un peu. Et le bon sens, c'est donc de retourner d'abord dans l'expérience physique, et puis d'écouter l'émotion que tout cela peut générer, et ensuite de mettre des mots dessus. J'entends trop souvent des gens arriver à la consultation avec des croyances toutes faites à propos de la maladie.
Par exemple ?
Et « Oh, ben, j'ai une angine », ces gens-là ne viennent pas à ma consultation, mais c'est un exemple qui me vient comme ça. « J'ai une angine, c'est parce que je ne suis pas arrivé à dire ma vérité. Alors j'ai mal de gorge. » Ok.
C'est un peu
psychologisme ambiant là, qui est de plus en plus répandu, où les gens font un lien immédiat avec des problèmes psychologiques pour leurs problèmes physiques. Mais en même temps, il faut écouter ce que cette personne dit. Si elle dit qu'elle a du mal parce qu'elle n'a pas pu dire sa vérité, ben, c'est qu'elle avait vraiment envie de dire cette vérité. Il faut aussi écouter ça. Mais ce n'est pas forcément à cause de ça que la maladie est arrivée. C'est peut-être un peu à cause de ça, parce que le stress provoqué par cette situation a peut-être fragilisé la personne, et face au méchant virus qui est passé, la maladie peut survenir. Mais toutes ces croyances que les gens ont parfois, certains sont des croyances presque enfantines, où ils sont convaincus qu'ils sont victimes d'un mauvais sort, ou qu'ils payent quelque chose de karmique, pour parler dans un langage bouddhiste, ou parfois dans un langage plus chrétien, que voilà, c'est le bon Dieu qui est là, et alors ils intercèdent le bon Dieu pour qu'il soit plus gentil avec eux. Mais tout ça est évidemment du domaine de l'irrationnel, de l'enfant en nous qui est perdu et qui cherche des explications. Et je pense que pour aider les gens à ne pas rester prisonniers de ces premières explications, la meilleure façon, c'est de les entraîner dans leur corps, à le sentir, à en prendre conscience. C'est étonnant de voir comme très souvent on a peu conscience de ce corps, à le bouger, à sentir ce qui est en santé, ce qui ne l'est plus, écouter l'émotion qui surgit de là, et ensuite, avant même de parler, moi je propose aux gens de s'exprimer artistiquement, à travers le dessin, à travers la pâte à modeler. Et alors ils disent « mais je ne peux pas faire ça ». Et je dis « si, laissez l'enfant en vous s'exprimer ». Et quand il découvre ce qu'il exprime, tout d'un coup il découvre tellement plus de ce qu'il croyait, par rapport à ce qu'il croyait être, qu'alors ils peuvent redécider d'une direction, d'un sens pour leur vie.
Repère RCF.
Thierry Janssen, nous parlons avec vous du sens à donner à la maladie. La maladie a-t-elle un sens? C'est le titre de votre livre paru chez Fayard. Vous dites qu'il y a trois grands principes dans le processus de guérison. Le premier, c'est celui de la fluidité.
Oui.
Alors j'aimerais qu'on revienne sur cette notion. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette fluidité?
Vous savez, mon livre, il a un sous-titre qui est « Enquête au-delà des croyances ». Et précisément, quand on aide les gens à aller au-delà de leurs croyances par rapport à la maladie, par rapport à eux-mêmes ou par rapport à la vie, et qu'ils reviennent dans ce bon sens où ils recontactent leur corps, et puis l'émotion, et éventuellement après les mots qui peuvent se poser sur tout ça, il m'a paru évident en observant l'expérience de tous ces patients que j'ai pu accompagner que la première qualité que les malades cherchent à renouer quand ils cherchent à retrouver la santé, c'est précisément la fluidité. Cette fluidité, la fluidité du corps, mais aussi la fluidité de la pensée. Et l'une ne va pas sans l'autre. Vous savez comme moi que quand on est fixé dans ses croyances, eh bien, on finit par avoir un corps qui se fige, qui se rigidifie, qui se crispe. Et alors que quand on peut changer sa façon de penser, eh bien, ce corps peut aussi se réanimer, se remettre en mouvement. Et vous savez, quand j'écrivais La maladie est-elle un sens, régulièrement, je sentais la crispation s'installer en moi parce que j'étais dans mon raisonnement et je me disais oh là là, je suis en train de me faire du mal, et puis mon texte devient ennuyeux parce qu'il était très rigide et je me disais je vais perdre le lecteur. Alors je m'arrêtais, j'allais mettre de la musique et je commençais à danser tout seul, et 4-5 fois par jour ça m'arrivait tout au long de l'écriture de ce livre, et chaque fois que je dansais, la fluidité de mon corps réinstallé dans mon corps, recréait une fluidité dans ma pensée. Et quand je retournais à l'écriture, le texte revenait agréable, même amusant quelque part, et je me disais, là, le lecteur va venir danser avec moi. Cette fluidité, elle est en lien avec ce que nous sommes. Nous sommes de l'eau. 75% de notre corps, c'est de l'eau. Notre cerveau, c'est 90% d'eau. L'eau, c'est la vie, c'est l'eau, mais l'eau est fluide. L'eau s'adapte. Donc, nous avons vraiment intérêt, pour retrouver cette vitalité en nous, à cultiver ou à retrouver cette fluidité.
Alors le deuxième principe,
c'est la confiance. Parce que pour pouvoir être fluide, ces personnes ont besoin de retrouver de la confiance. Confiance en elles, mais une confiance dans les autres et une confiance dans la vie. Parce que nous vivons dans la peur, et cette peur, elle est inhérente à notre instinct de survie. Nous anticipons toujours vers la catastrophe pour prévoir les catastrophes. C'est un bon instinct de survie, mais en même temps, cette peur devient irrationnelle à bien des égards. Et la seule peur qui est justifiée, c'est celle qui est créée par un phénomène de l'instant présent. Donc, nous devons nous méfier de nous-mêmes et de nos projections dans le futur et de ces scénarios catastrophes qui nous angoissent, parce que cette peur empêche la confiance, et cette confiance perdue empêche la fluidité alors de se manifester.
Alors, le troisième pilier...
Vous savez, la confiance, c'est aussi la foi. C'est la foi, mais peu importe le système philosophique ou religieux dans lequel on évolue, c'est cette confiance en la vie, c'est de dire oui plutôt que non. C'est d'accompagner le mouvement, d'accepter ce qui est, d'en faire quelque chose. C'est s'ouvrir. Et c'est ça qui est beau chez l'être humain. Il a cette capacité. Malheureusement, et quand il est pris dans sa peur, il ne voit plus ses possibilités. Il est dans le oui mais, dans le non. Il est en dehors de la vie, il est dans la survie. Mais survivre n'est pas vivre. Et c'est ça qu'on peut aider parfois les gens à recontacter. Surtout quand on est malade, on a besoin de cette vie, de cette vitalité.
Et alors le troisième pilier important pour la santé, c'est la cohérence.
Oui, parce qu'à ce moment-là, chez toutes ces personnes, et je raconte dans le livre toutes ces expériences dans des ateliers, en groupe où nous travaillons avec notamment l'expression artistique, après avoir contacté le corps et l'émotion, et chez toutes ces personnes, il m'a semblé que la troisième grande qualité qu'elles essayent de retrouver, c'est cette cohérence. Et cette cohérence entre ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. Et je crois que c'est la chose la plus difficile à mettre en place dans sa vie. Quand j'étais enfant, je m'amusais à pointer du doigt chez les adultes, notamment mes parents, leurs incohérences. Et Dieu sait s'il y en avait, parce qu'on est tous très incohérents. Mais aujourd'hui, je n'oserais pas refaire ça, parce que à l'époque ça me donnait un peu de pouvoir sur mes parents, mais je me rends compte que c'est tellement difficile d'être cohérent que je ne peux pas dénoncer l'incohérence des autres, ou en tout cas leur en vouloir d'être dans l'incohérence. Par contre, je crois que si nous voulons trouver le bonheur, si nous voulons trouver la santé, nous devons exercer cette cohérence. Et aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, regardez la médecine comme elle s'est construite par rapport au cancer dont vous parliez. Aujourd'hui, on dit il faut faire de la prévention. C'est une très bonne chose. Il est grand temps qu'on en parle un petit peu. Mais dans ces préventions, on dit aux gens il faut manger des fruits et des légumes 5 par jour. Il faut faire de l'exercice. Il faut arrêter de se stresser. Il faut arrêter de fumer. Il faut arrêter de boire de l'alcool. Il faut arrêter de manger trop gras et trop sucré. Oui, Mais on n'est pas cohérent par rapport à tout ça. Car manger des fruits et des légumes, ils sont toujours aussi chers et surtout ils sont remplis de produits, notamment des pesticides qui ne devraient pas s'y trouver et qui ont un rôle cancérigène. Arrêter de fumer, oui, mais on continue à vendre des paquets de tabac, même s'ils sont toujours de plus en plus chers et que dessus on marque fumer tu, on est quand même content de les vendre. Et ne plus boire d'alcool, oui, mais en même temps, aujourd'hui on permet aux jeunes de boire des alcools qui sont déguisés sous forme de jus de fruits additionnés de vodka, etc. Et les fabricants savent très très bien que si on fait consommer un jeune avant l'âge de 13 ans ces alcools-là, eh bien il en boira toute sa vie. C'est un client qui sera d'une fidélité exemplaire. Donc nous sommes à la fois les gens qui allumons le feu et ceux qui essayons de l'éteindre. Donc la profession médicale en particulier, parce que si elle ne le fait pas, qui le fera, a comme responsabilité d'essayer d'inviter à plus de cohérence par rapport à la préservation de notre santé.
Repère, Béatrice Soltner.
Thierry Janssen, dans votre livre « La maladie a-t-elle un sens ?» paru chez Fayard, vous dites que l'homme du XXIe siècle doit réapprendre l'humilité. Ce terme que vous rapprochez du latin « humus », vous parlez pour les médecins, pour l'homme en général ?
Non, pour nous tous. Mais pour l'homme occidental en particulier, ou l'homme occidentalisé, parce que notre culture a des aspects extraordinaires, mais en même temps, je pense qu'elle a manqué d'humilité. Elle a cru qu'elle pourrait être toute puissante, que l'homme allait devenir un dieu, qui pourrait manipuler tous les éléments, et la nature en particulier. C'est un manque d'humilité que d'oublier que nous faisons partie de cette nature. Et vous le disiez, humilité, ça vient de humus en latin, qui veut dire la terre. Mais c'est aussi la même racine, humus, que humanité. Et peut-être que les êtres humains se sont attribués ce qualificatif d'humain justement pour se rappeler leur appartenance à la Terre et le besoin d'avoir l'humilité de le reconnaître, la simplicité de le reconnaître. Et je crois qu'on est vraiment humain que lorsque l'on a cette humilité. Et une médecine qui se voudrait humaine et qui se voudrait vraiment en lien avec l'humain devrait cultiver plus cette humilité.
Justement, à la fin de votre livre, vous parlez des soignants et vous dites que souvent, la médecine reste dans une logique beaucoup trop technicienne. La médecine doit évoluer, mais dans quel sens alors ? Parce que c'est vrai qu'avec la science, elle est capable de beaucoup, d'aller très très loin.
Parler de la médecine, c'est parler de toute la civilisation. Je veux dire par là que la médecine étant qu'un reflet ou une émanation de notre société, de nos sociétés modernes, occidentales ou occidentalisées, ben, finalement, on retrouve le même problème dans tous les secteurs de notre société. C'est-à-dire que nous sommes partis dans une voie d'exploration avec une certaine vision du monde, pensant que nous étions en dehors de la nature, pensant que nous pourrions tout contrôler en nous excluant de cette nature et en utilisant nos productions technologiques pour la dominer. Mais c'est une voie d'exploration, c'est pas la seule. Il y a d'autres peuples encore aujourd'hui à la surface de cette terre qui vivent autrement. Nous essayons d'ailleurs de les convaincre de venir vivre de notre manière. Mais peut-être qu'un jour nous devrons, je ne prêche pas pour revenir en arrière, comme on dit, mais revenir à plus de bon sens, plus de fondamental, plus d'essentiel, plus de simplicité. Parce que je ne suis pas sûr que la civilisation se manifeste seulement dans la sophistication. Je crois que la civilisation se manifeste essentiellement dans une compréhension fine de l'esprit des choses, donc dans la spiritualité.
Alors pour revenir à l'aspect du sens justement de la maladie qui est l'objet de votre livre, quel sens je peux donner à ma vie quand je sais que j'ai une maladie qui est irrémédiable, je vais vers la mort par exemple. Certains vivent cette réalité terrible.
Oui, je voudrais vous raconter alors une histoire, parce qu'on ne peut pas théoriser sur ces choses-là. Un jour, j'accompagnais depuis plusieurs années un jeune homme qui avait le sida. Il avait 35 ans et j'allais le voir à l'hôpital parce que sa santé s'était fortement dégradée. Et un jour, j'arrive dans sa chambre et il était assis dans son lit, très en colère. Et il me dit, je suppose qu'on va parler un petit peu du sens, et d'un air un peu cynique, ironique. Et il me dit, mais je peux vous dire une chose, c'est que la vie n'a pas de sens. La vie est absurde et je ne sais qu'une chose, c'est que je vais la perdre. Et je ne pouvais pas en vouloir à ce monsieur de vivre cette colère. Et il voyait bien dans mon œil le doute s'installer, et donc il a voulu me provoquer en me disant, et vous docteur, vous avez peut-être trouvé le sens de la vie? Et vous savez, parfois les patients, c'est des maîtres, ils vous obligent d'aller en profondeur, de répondre à des questions que l'on croit faciles de répondre pour les autres, mais d'aller au fond de soi, et face à ces deux yeux-là, il fallait que je réponde. Et je lui ai dit, si je regarde mon existence, si je regarde l'existence des gens que j'ai pu côtoyer, accompagner, si je regarde la vie des plantes, si je regarde la vie des animaux, si je regarde la vie de tout ce qui est vivant sur cette terre, il me semble qu'au-delà de nos différences, au-delà de nos particularités, de nos cultures, de nos croyances, nous avons tous quelque chose en commun. Tous quelque chose qui nous relie et qui est ce désir, cet élan de vivre et de transmettre de la vie. Et je lui disais, je ne crois pas que transmettre de la vie, c'est simplement faire des bébés. Non, transmettre de la vie, c'est d'abord essayer de comprendre ce qu'est la vie. Et je dis bien essayer, c'est tellement vaste, c'est tellement subtil. Et quand on a cru comprendre quelque chose, d'avoir la cohérence de manifester dans nos actes ce que nous avons cru comprendre. Et transmettre de la vie, alors si c'est ça mon rôle d'être humain, même si ma vie n'est pas longue, je peux le faire dans chacune des actions de ma vie. Et si c'est ça le sens de ma vie, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'imaginer même l'existence après la vie. C'est s'inscrire dans une évolution, dans une transmission. Et grâce à ceux qui l'ont fait avant moi, nous sommes là pour en parler aujourd'hui. Et j'espère pouvoir laisser ça pour ceux qui en parleront demain. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais c'est pas mal. Et je lui ai dit, c'est comme ça qu'on peut y réfléchir. Après, chacun peut disserter et décliner tout ça. Mais il m'a dit, mais alors promettez-moi une chose. Si un jour vous écrivez un livre sur tout ça, promettez-moi de rapporter notre conversation. Et je lui ai demandé pourquoi et il m'a répondu, ça donnera un peu de sens à mon existence. Et je me suis dit, voilà, cet homme, et il est d'ailleurs mort quelques heures plus tard, quelques jours après. Mais cet homme n'avait plus beaucoup de vie devant lui, mais en me demandant d'en parler, quelque part, aujourd'hui, il est là et il transmet quelque chose. Et c'est ça, je pense, le sens, pour moi en tout cas, et en le sens du métier que je fais, ou de la fonction que j'assume. Mais après, c'est à chacun de répondre, d'apporter ses réponses.
Mais la maladie en elle-même n'a pas de sens.
La maladie a plusieurs sens, nous l'avons dit. Elle a le sens biologique, elle a des causes et elle a des raisons. Bon, mais elle a un sens symbolique que chacun, et c'est ce sens-là dont je parle ici, que chacun, en fonction de sa culture, son histoire, de ses désirs, va pouvoir y apporter. Et pour beaucoup de gens, quand on est dans une vraie réflexion par rapport à soi, dans la maladie, c'est de comprendre un peu plus de soi le sens de la maladie. C'est de comprendre un peu plus des autres, un peu plus de la vie. Et vous avez des gens alors qui vous disent, ça peut choquer les gens qui n'ont jamais été malades et qui ont très peur de la maladie parce qu'ils la voient comme quelque chose de redoutable, évidemment. Mais ces gens alors sont capables de vous dire, je parle des malades qui ont fait ce chemin, que leur maladie a parfois été une opportunité, voire une chance. Et certains alors peuvent aller jusqu'à comprendre que ce n'est pas la quantité des années qui compte, mais la qualité, la profondeur, l'épaisseur de cette vie qui est importante. Et là, on est dans une toute autre perspective.
Mais il n'y a que les malades qui peuvent dire ça.
Mais il n'y a que ceux
qui sont
dedans.
Le médecin ne peut pas dire ça. Alors, ou les proches, ça aura un sens.
Le médecin n'a pas à le dire, le médecin a accompagné dans cette expérience et ne pas nier cette expérience. Et en tout cas, même si c'est pas toujours sa fonction, car quand je pratiquais la chirurgie, je n'avais pas toujours et le temps ou la compétence pour aller dans cette fonction, mais c'est de créer les circonstances pour que ça puisse se produire et de ne pas se réfugier uniquement derrière nos remèdes et nos technologies en oubliant que ceci est important aussi. Et cette initiation manque dans nos parcours médicaux. On nous forme à être de bons techniciens, à être de bons prescripteurs, des bons diagnostiqueurs aussi. Mais on ne nous forme pas à être des êtres en face d'autres êtres. On ne nous forme pas à avoir une qualité de présence, On ne nous forme pas à nous connaître nous-mêmes pour dépasser nos peurs ou à les apprivoiser et aider les autres à dépasser ou apprivoiser les leurs. Et c'est cette fonction-là que je crois qu'il manque aujourd'hui aux soignants dans la médecine conventionnelle et dans d'autres secteurs aussi, mais c'est d'être dans cette qualité d'être avant d'être dans la qualité de faire. Et bien souvent, ils ne seront pas très heureux dans leur pratique parce qu'ils sentent bien qu'il manque quelque chose, il y a une frustration et ils ne sont plus en contact avec eux, ils ne sont plus en contact avec les patients. Et du coup, leur métier est vidé de sa substance, vidé de son essence et ça fait des êtres souvent très désemparés. On en parle de plus en plus de la souffrance des soignants, elle est réelle.
Thierry Janssen, un grand merci d'être venu nous parler de ce sens possible de la maladie à découvrir pour chacun. Le titre de votre livre, La maladie a-t-elle un sens, paru chez Fayard. Merci à Benoît Palandre qui mettait en onde cette émission.